Vous aussi, vous avez de la peine à vous endormir la nuit, les enfants? Moi, je me souviens, quand j'étais petit, quand j'essayais de m'endormir, alors il y avait une règle à la maison, c'était simple, aucune lumière. Parce qu'à l'époque, ça date, hein, une cinquantaine d'années, on va dire, eh bien, les parents nous mettaient dans nos chambres et on fermait les portes et on n'avait pas de veilleuse. Donc, c'était la nuit noire. Et ce qui se passait, au bout de quelques minutes, je voyais des formes apparaître sur les murs et ça se dirigeait régulièrement vers mon placard. Alors, les premières fois, je me suis mis à hurler. Alors, bien sûr, mes parents arrivaient, ils allumaient la lumière et les monstres disparaissaient. Et puis, avec le temps, je criais plus et je me souviens, je les voyais, c'est des sortes de, voyez, des sortes de formes étranges. Et donc, dès que j'approchais, j'essayais de les attraper. Et j'ai jamais réussi à les attraper. Alors, vous vous dites peut-être que les enfants qui ont peur dans la nuit, c'est quelque chose de normal. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, les scientifiques nous apprennent que lorsqu'on est plongé dans un noir total, hein, s'il n'y a absolument aucun brin de lumière, eh bien, notre cerveau va fabriquer des lumières et on va voir apparaître des formes, voir apparaître des. Et alors après, votre imagination va faire le reste. Hein, et un enfant, quand il voit une forme, il se dit, oh, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, un petit peu comme ces ombres-là. Et donc, notre cerveau va fabriquer une sorte d'image et on va y voir des fantômes. Bien évidemment, quand on allume la lumière, tout disparaît. Et puis, donc les enfants, si ça vous arrive, demandez à papa et maman, là j'en vois là des enfants, mais il y en a d'autres un petit peu clairsemés, demandez-leur une petite veilleuse, tout simplement. Ça ne vous empêchera pas de dormir, mais une veilleuse va les rassurer. Pourquoi je dis ça? Parce que le texte qu'on a abordé et qu'on a lu à plusieurs reprises dans Ésaïe 9 parle d'un monde qui était dans les ténèbres, et puis il y a une chose qui va se passer, une lumière qui va apparaître soudainement. Le texte, assez étrange d'ailleurs, si vous regardez bien. Alors ça, c'est le premier point des ténèbres qui gâchent tout. Regardez le premier verset d'Ésaïe 9. Donc c'est dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas encore là, mais c'est une annonce prophétique du futur Messie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a resplendi. Et donc, vous voyez, je n'ai pas raconté cette anecdote pour rien, simplement pour faire un pont ici où on voit que le peuple marchait dans les ténèbres et il voit apparaître soudainement une lumière. Et cette lumière va être décrite quelques versets plus loin. Mais déjà, on va décrire les ténèbres. C'était quoi les ténèbres ici? Est-ce qu'il s'agissait d'enfants qui étaient dans une chambre et qui avaient peur du noir? À votre avis? En fait, quand Ésaïe a écrit, il ne pensait pas à nous, hein. Il était dans une circonstance de la vie et donc il va faire une prophétie par rapport à sa circonstance, par rapport au peuple d'Israël qui était autour de lui. Et qu'est-ce qui se passait? À l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Achaz. Achaz, ça s'écrit Achaz, mais ça se dit Achaz normalement. Est-ce que c'était un bon roi, Achaz, vous qui avez lu la Bible? La Bible le décrit comme un des pires rois qu'il y ait eu en Israël. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui n'était pas un bon roi, pas un bon modèle à suivre. Et on sait que les rois dans l'Ancien Testament représentaient Dieu. Donc quand on voyait le roi, on aurait dû voir Dieu et le doigt. Et c'est pour ça que le ministère des rois, c'était de conduire, de diriger le peuple. Il jouait un peu le rôle de Dieu. Donc c'était un représentant terrestre de Dieu. Et lui, en fait, il avait peur parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis autour de lui. Il y avait les Assyriens qui étaient très dominants à l'époque, qui étaient un peuple guerrier puissant. Et au lieu de les affronter et d'avoir peur, ce qu'il a essayé de faire, c'est des alliances avec l'ennemi quelque part. La collaboration. Il a fait ce que les Français ont fait pendant la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de s'associer avec les plus forts. Et ben, il en a perdu son âme, et surtout il a perdu la direction de son peuple. Quand il se passe des compromis dans le peuple d'Israël, ou au niveau de la tête, hein, si moi, par exemple, en tant que pasteur, je me mets à faire des compromis, je vais vous entraîner avec moi dans ces compromis. Je vais commencer à prendre du recul avec la Bible. Je ne vais plus la prendre comme la parole de Dieu, mais comme une parole intéressante, de bons conseils, mais vous voyez, sans plus. Et donc, du coup, je vais vous orienter avec moi. Puis, gentiment, on va glisser soit dans le libéralisme, c'est-à-dire qu'on va considérer Dieu de manière très lointaine, soit on va devenir légaliste, vous voyez, dans l'autre extrême, très religieux. Et c'est ces deux extrêmes que l'on voit constamment dans la Bible et que l'on voit autour de nous et dans les églises, et on n'est pas à l'abri. Donc veillez sur vos rois, veillez sur votre pasteur et vos bergers, parce que si eux déraillent, nous déraillons tous. Et quand je dis le berger, je ne suis pas le seul, il y a des responsables de groupes de maison. Si eux vous enseignent mal, ils vont aussi mal orienter le peuple. Et voyez, nos doutes, on va vous les véhiculer, nos erreurs, on va vous les véhiculer, et ça aura des conséquences. Et c'est ce qui a eu lieu à ce moment-là. Donc, Ésaïe était un prophète qui vient réveiller quelque part le peuple et les dirigeants. Et donc, il parle de cette situation. Et donc, l'obscurité, c'était quoi ? Eh bien, c'était le désespoir, parce que le peuple ne voyait pas d'avenir. Ça, c'est la première chose. Désespéré. Il n'y a pas d'avenir. Si vous allez en France, ça chauffe en ce moment un petit peu les paysans, les agriculteurs, les cultivateurs. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils ne sont pas contents. Et parce qu'il n'y a pas d'avenir, ils ne voient pas où on va. Eh bien, c'était un petit peu ce qui se passe ici. Le désespoir pour les Israélites, c'était aussi la dépendance aux solutions humaines. Hein, quand on cherche ailleurs qu'en Dieu sa paix, eh bien, on va trouver une forme de paix, mais elle ne sera pas durable. Elle va être momentanée, et c'est ce que va faire Akaz. Il va trouver des solutions humaines, vous voyez, boiteuses, mais qui satisfont sur le moment. Et puis qui ne sont pas durables, donc qui ne durent pas dans le temps. Et donc c'est trois éléments, le désespoir, la dépendance aux solutions humaines et l'absence de paix véritable. Pour nous, ça peut représenter quoi ce désespoir ? Eh bien, c'est des moments qu'on peut traverser dans la vie où on ne voit aucune perspective positive. Là, je prends le cas de mon fils, par exemple, il est au chômage, il envoie des courriers et on lui envoie constamment des réponses négatives. Mais quand ça dure ? Un mois, deux mois, trois mois, quand ça dure peut-être des années, je sais qu'il y en a d'autres qui sont dans cette situation, on se dit, mais jusqu'à quand ça va durer cette situation ? Et vous voyez, le désespoir peut s'installer, même dans nos vies à nous. Ça peut être des doutes aussi qui arrivent, on doute, on est des humains, et Dieu sait ces choses. Le doute fait partie de la vie humaine, et en fait, ce doute peut nous amener soit à prendre du recul, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la Bible, vis-à-vis de Jésus, voire même à douter de son existence. Hein, vous avez probablement été là. Si la pente est glissante et qu'on ne contre pas cette tendance, le doute va s'installer et on va même douter de l'existence même de Dieu parce qu'on traverse une situation difficile et qu'on ne voit pas de réponse. Ça peut être des craintes aussi, nos ténèbres. Des craintes, on a peur de l'avenir, on a peur de ce qui va se passer. Ça peut être aussi des moments où on perd pied. Hein, complètement, on ne maîtrise plus rien, tout bouge autour de nous, et puis on est là, on se sent ballotté comme un pantin. Et donc c'est ça, ce genre de ténèbres qu'on peut aussi rencontrer. C'est un petit peu comme lorsqu'on roule de nuit et que la neige vient de tomber. J'ai rencontré cette situation il y a quelques années, on venait à Genève avec mon épouse, je donnais un cours à l'IBG le lundi matin, et on est parti le dimanche soir. Il pleuvait, c'était au mois de février si je me souviens bien, et donc il pleuvait, il faisait 5 degrés, et puis je branche le GPS, on monte dans la voiture, et je ne fais pas attention, mais le GPS nous fait passer par le chemin le plus court. Et j'habitais Dijon, le chemin le plus court pour aller à Genève, c'est on passe par le col des Rousses, à côté de chez toi Guillaume. On passe par le col des Rousses, et puis on redescend sur Genève, Nyon, enfin bref. Et puis, donc nous voilà partis. Au pied de la montagne, tout va bien, il pleuvait encore, et puis plus on monte, la pluie se transforme en neige, et puis la neige commence à être de plus en plus dense, et plus on montait, et plus on voyait, et moins on voyait la route en fait. Au point qu'à un moment donné, il y avait mes phares, donc la nuit était tombée, les phares éclairaient un champ blanc, mais dans la montagne. Vous imaginez sur une route où vous ne voyez plus les bandes, où vous ne voyez pas les ravins. Et donc, vous êtes au milieu, votre voiture monte, parce que j'avais des pneus neufs, j'étais pas équipé, et la voiture part un coup à droite, un coup à gauche, et puis il y a le précipice qui arrive, on sait qu'il y a un virage, et puis la voiture, qui se met à chasser, hop là, puis elle reprend. Et on a monté comme ça, en deuxième, on voyait des voitures sur le bas-côté qui restaient, et je me suis dit, mais on ne peut plus redescendre, ce sera pire, une voiture qui descend, ça ne se dirige absolument pas. Donc on essayait avec l'adhérence du moteur, et on a réussi comme ça. Ma femme m'a dit, c'est le pire moment de ma vie. Elle a eu très très peur. Alors je ne brillais pas trop non plus, hein, mais j'étais au volant, vous voyez, j'avais un semblant de maîtrise, on va dire. Mais ça a été terrible. Eh bien, c'est un petit peu les ténèbres d'Ésaïe. C'est-à-dire que c'était une situation que l'on subit. On ne maîtrise rien, on a peur, et cette peur-là, elle nous envahit complètement. C'est ce que ressentait le peuple d'Israël, et peut-être que toi aussi, tu ressens ce genre de ténèbres. Une période où tu ne comprends pas ce qui se passe, tu n'arrives pas à dormir. Les nuits sont très longues, parce que quand on n'arrive pas à dormir, on s'endort sur le matin, et puis le réveil sonne. Ça m'arrive. Une angoisse que tu n'arrives pas à gérer, qui te pèse sur la conscience, une situation qui dure, que tu subis sans pouvoir agir. Bref, voilà le genre de situation. Ce n'est pas juste des choses qu'on ne voit pas, c'est souvent des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, et qui nous effraient. Et là, il y a quelque chose qui va changer. Parce que de cette situation ténébreuse où c'est la peur, il va y avoir une lumière qui va resplendir et qui va être rassurante. Et c'est la lumière qui change tout. Regardez, on relit ce verset, le verset 1. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, une lumière a resplendi. » Alors, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une lumière, on a décrit les ténèbres. Qu'est-ce que c'était que cette lumière? On se dit, est-ce que c'est une lampe torche? Est-ce que c'est une petite bougie? Je ne pense pas. Parce que là, elle vient éclairer les ténèbres, et on a vu que les ténèbres, ce n'était pas simplement une absence de lumière, enfin, ce n'était pas la nuit, c'est simplement une situation dramatique. Et dans cette situation désespérée, Dieu va envoyer une solution. Et cette solution, elle sera définitive pour nous, mais pour eux, elle était ponctuelle, et c'était le Messie, en fait, l'envoyé du Messie. Une lumière qui va dissiper la peur, qui va éclairer l'esprit, transformer le cœur. Et donc, ça signifiait pour les Israélites que Dieu ne les abandonnait pas. Hein, quand on voit une lueur d'espoir, c'est qu'on se dit « Ah, il y a la lumière qui est au bout du tunnel. » On voit quelque chose. Vous voyez, c'est plus le désespoir, c'est que « Ah, je sais que cette situation aura une fin. » Et comment nous est décrit cette lumière? Eh bien, c'est le verset 5. Et regardez comment il le décrit, sous la forme d'un enfant. C'est quand même bizarre. Une lumière, ça devient une personne. Et oui, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et là, c'est assez énigmatique, n'est-ce pas? Vous voyez une situation de ténèbres, on vous dit « il y a une lumière » et puis on se dit « ok, on a déjà notre réponse ». Eh bien non, la réponse, elle est sous cette forme-là. Et vous avez remarqué le début, un enfant nous est né. C'est quand même étrange. C'est ce qu'on appelle un dialogue prophétique. C'est pour maintenant et aussi pour plus tard. Mais là, la solution, cette lumière, c'est que c'est un enfant qui va naître et il va avoir des attributs. C'est pas un enfant, il va chasser l'obscurité, cette obscurité que les Israélites vivaient. Et cet enfant-là, eh bien, il porte plusieurs titres. Vous avez remarqué les titres? C'est quoi ces quatre titres qu'on voit? Premier titre, conseiller merveilleux. Alors, il y en a qui séparent. Conseiller et merveilleux. Mais on peut dire aussi un conseiller merveilleux, voyez. Donc oui, effectivement, je disais tout à l'heure qu'il n'était pas venu pour nous donner seulement des conseils, mais pour nous diriger avec sagesse. Et c'est ce que le Messie va faire. Il est dit aussi qu'il est Dieu puissant. Et là, on se dit, waouh, alors attends, il va naître, donc on est en train de parler de quelque chose d'humain, quelque part, il va naître, et il va avoir ce qualificatif de Dieu puissant, donc conseiller merveilleux, Dieu puissant. Et quand on regarde de près, Jésus, il est venu comme un bébé, mais il a agi avec puissance. Pas beaucoup d'hommes qui sont capables d'arrêter une grosse tempête juste en disant un mot, silence, et la tempête s'arrête. Silence, tais-toi, trois mots en fait. Mais ça fait pas grand-chose hein, pour arrêter une tempête. Hein. Moi, je pense qu'avec mes petits bras musclés, je vais essayer d'arrêter une vague. La première. La deuxième, je serai sous l'eau, bien au fond de l'eau. Vous voyez, on ne peut pas le faire. Et là, bah, Dieu puissant, il ne va pas faire que un miracle pour arrêter la tempête, mais bien d'autres miracles dans la Bible. Donc Dieu puissant, la force est avec cette solution, cette lumière. Et alors là, il y a un titre qui nous dépasse. Père éternel. Père éternel. Alors, Père éternel, on se dit, mince, il y a le Père, il y a le Fils. Oui, mais c'est Dieu, hein ? Dieu. Et donc, le Messie va porter un titre, ça sera notre Père spirituel aussi, et il est éternel, il a jamais été créé, Dieu n'a pas été créé. Jésus a été engendré, mais Dieu n'a pas été créé, il est éternel. Donc il vient ici avec cette éternité et avec une solution qui est durable, qui ne va pas s'inscrire seulement dans notre temps présent, mais qui va durer dans l'éternité. Et donc ce Père va prendre soin de nous, nous protéger jusqu'au bout, les amis, jusqu'au moment où on sera dans sa présence. Et le dernier titre, Prince de la paix, et là, il vient chasser notre angoisse, en fait. C'est cette paix intérieure qui vient balayer, et donc ce Dieu-là ne va pas faire comme avait fait Akaz, avec des compromis, chercher auprès des Assyriens, non. Là, il va nous donner une paix qui va être durable, une paix qui va venir de lui et non pas des circonstances. Et voilà les titres de cette lumière, quelque part. Ce n'est pas des étiquettes honorifiques, ça décrit finalement celui qui va chasser nos ténèbres. Et je conclue ici. Peut-être que ce matin, on s'approche de Noël et que bah, vous avez aussi des ténèbres. Et je pense qu'on en a tous plus ou moins des ténèbres. Des situations qu'on ne maîtrise pas, des situations difficiles qu'on aimerait voir derrière nous, loin. Et je sais qu'il y en a qui sont dans la maladie, qui font régulièrement des séjours à l'hôpital, qui sont sous traitement long et qui ne voient peut-être pas le bout du tunnel. Peut-être que ça amène le doute, la peur, la souffrance. Il y a des maladies, je sais que parmi vous, hein, plus je discute et je connais mes brebis, et plus je me dis « waouh, il y a quand même des gens qui souffrent ici ». On ne le voit pas. Ils ont le sourire le dimanche, mais ils serrent les dents des fois. Et c'est comme ça. Eh bien, moi, j'aimerais que Noël, ce Noël, eh bien, soit un petit peu comme cet enfant. Au lieu de voir des fantômes dans la nuit, que vous restiez dans ces ténèbres, que vous allez aussi rajouter des choses. Hein. Quand on est dans les ténèbres, notre cerveau va imaginer plein de situations qu'on va corroborer, et puis on va noircir le tableau. Et puis, vous voyez, là, la lumière, elle vient donner une véritable paix pour qu'on puisse faire comme cet enfant, dormir, juste parce qu'il y a la lumière qui est à nos côtés. Et on l'a chanté, la lumière dans Ésaïe 7, donc deux chapitres avant le texte qu'on a lu, et il est décrit comment, le Messie ? Comme Emmanuel. Ishmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et là, on a vraiment Dieu qui est présent. Donc, c'est cette petite lumière, quelque part, je prends cette image-là, d'un enfant, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mais c'est la réalité, c'est ce que voudrait faire Jésus dans nos vies. Dissiper nos peurs, nous rassurer, nous libérer, nous aider à marcher, non plus dans les ténèbres, mais dans sa lumière à lui, et de marcher avec la lumière de Dieu, ça change tout, les amis. Ça change tout. Alors, quand vous allez voir les lumières qui brillent autour de vous, hein, ne vous laissez pas simplement éblouir par ces belles lumières. C'est vrai que quand on regarde un feu d'artifice, on fait « waouh !» On est ébloui sur le moment, mais ça ne dure qu'un temps. Moi, je me dis toujours, quand je regarde un feu d'artifice, ça dure 15 minutes, ça pète dans tous les sens, c'est magnifique. Le feu d'artifice s'arrête et qu'est-ce qui se passe ? Bon, ok. La vie reprend. Eh bien là, Jésus, il reste avec nous. Vous voyez la différence ? C'est que nous, quand on va regarder ces lumières-là, on peut se dire, ok, la lumière de Jésus, ah, ok, elle brille de mille feux en ce moment, c'est Noël, on met en avant cette période et c'est super. On va le faire aussi, mais ne nous arrêtons pas simplement aux choses qui brillent. Regardons plus loin à la lumière qui, elle, va apaiser véritablement nos cœurs. Alors moi, ce que je vous invite à faire, là, on va écouter un chant qui va passer en vidéo, et après je donne la main à Sandrine parce qu'on va faire des petits ateliers. Donc là, c'est une petite vidéo. Vous pouvez chanter, je pense, si vous connaissez, il y aura les paroles qui seront sous-titrées.
Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sourire. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel. Éternel, Emmanuel.